BFM Business présente Les Experts sans frontières. Guillaume Paul.
Il est 18h, quasiment 18h. Bienvenue dans Les Experts sans frontières qui seront là dans un petit quart d'heure autour de la table pour parler, comme tous les vendredis, de la France, de l'Europe et du monde. On a encore beaucoup de choses à vous raconter ce soir. Sinon, dans l'actualité, quoi de neuf? Il y a cet accord concernant le budget, vous savez, arraché de haute main lors de cette fameuse CMP aujourd'hui, mais qui n'écarte pas vraiment le risque de censure la semaine prochaine. On va voir ça avec Thomas Asportas dans un instant. Les propos de Bernard Arnault sur les hausses d'impôts, ça vire au feuilleton ce matin. C'est Michel-Édouard Leclerc qui lui critiquait le point de vue. Il y a 2 heures, Bernard Arnault lui a répondu directement, figurez-vous, sur X. C'est assez rare pour être souligné, donc on va vous raconter ça aussi. Et puis au milieu de tout ça, demain c'est le 1er février, donc c'est demain que théoriquement Donald Trump est censé dégainer ses premières hausses de droits de douane sur le Canada et le Mexique. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr, nous sommes partis jusqu'à 19h.
BFM Business, l'info éco.
Donc, CMP pour Commission Mixte Paritaire. Jamais on n'aura autant utilisé cet acronyme.
Bonsoir. Tout à fait, ouais.
Bonsoir Thomas. Bonsoir. Avec un accord, entre guillemets, sur le budget adopté vers 13h en CMP, 8 voix pour, 6 voix contre. Budget a donc franchi une nouvelle étape. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport à la copie précédente, finalement, Thomas?
Pas grand-chose, grand-chose. Il n'y a pas eu fondamentalement de révolution dans cette CMP. Globalement, la copie qui en est ressortie est assez proche de ce que voulait le gouvernement et son socle de la droite et du centre. Dedans, vous retrouvez la surtaxe d'IS sur les grands groupes pendant un an, la contribution différentielle sur les hauts revenus qui doit rapporter 2 milliards d'euros, l'effort sur les collectivités locales ramené à 2,2 milliards d'euros, le relèvement des frais de notaire de 0,5 points et à la fin, un objectif de déficit public tenu, en tout cas l'objectif, à 5,4%. Donc dans l'ensemble, la copie est bonne pour le gouvernement et ses soutiens du centre. Maintenant, évidemment, il faut aussi qu'elle soit bonne aux yeux des socialistes, oui, pour qu'ils ne censurent pas François Bayrou la semaine prochaine. Et ce qu'on peut dire en résumé, c'est que dans cette CMP, le PS a davantage obtenu la confirmation des engagements qu'avait donné François Bayrou plutôt que de nouvelles concessions. Les socialistes ont fait graver dans le marbre l'abandon des 4000 suppressions de postes dans l'enseignement, l'abandon des 500 suppressions de postes, ouais, chez France Travail, le relèvement de la taxe sur les transactions financières de 0,3 à 0,4% ou encore l'alourdissement de la taxe sur les rachats d'actions à 400 millions d'euros. Cela étant dit, à côté de ces confirmations, qui sont gros morceaux, les socialistes ont quand même obtenu en fin de course ce matin quelques concessions supplémentaires, notamment sur l'AME, on en a parlé, c'est un point très important à leurs yeux. Le dispositif sera maintenu cette année avec les mêmes crédits et les mêmes critères que l'an dernier. Les socialistes ont aussi obtenu l'abandon de 300 millions d'euros d'économies sur le budget de l'écologie et 500 millions d'euros en plus pour le fonds vert. L'agence bio n'est pas supprimée et le budget du ministère des Sports n'est pas amputé d'économies supplémentaires. Donc voilà le résultat des courses. Les socialistes n'ont pas pour autant aujourd'hui voté le budget en CMP, mais ils ont mis en avant à l'issue ces concessions comme des victoires. C'est le mot qu'a employé Boris Vallaud. Est-ce que ce sera suffisant pour ne pas censurer François Bayrou la semaine prochaine? Eh bien, verdict, dès lundi, quand le budget reviendra dans l'hémicycle, François Bayrou va recourir au 49-3, il n'a pas le choix. Il n'a pas de majorité. Une motion de censure sera déposée dans la foulée par les Insoumis, l'ont déjà dit. Et c'est à ce moment-là qu'on va connaître les intentions des socialistes. Pour l'instant, on va s'en tenir à ce qu'a dit Boris Vallaud à la mi-journée. Rendez-vous lundi à l'Assemblée.
Rendez-vous lundi, bon week-end d'ici là. Donc lundi à l'Assemblée. Possible examen, vote soumis au vote des députés, cette motion de censure. Donc mercredi, parce que c'est mercredi de toute façon.
C'est 48 heures après le dépôt de la motion de censure.
Et tout ça nous promet un très beau début de semaine. Merci beaucoup Thomas. Thomas Asportas avec nous sur BFM Business. Bon, il y a donc ces propos de Bernard Arnault mardi sur les hausses d'impôts sur les grandes entreprises pour pousser la délocalisation, c'est idéal, avait-il notamment déclaré. On est passé dans une autre dimension aujourd'hui. Bonsoir Nathan Cocampo. Bonsoir. Donc premier épisode ce matin, c'est Michel-Édouard Leclerc qui a répondu de manière assez cash à Bernard Arnault, qui n'a pas vraiment apprécié ses propos. Écoutez Michel-Édouard Leclerc ce matin.
Je pense que ce n'est pas forcément positivement impactant d'avoir un des hommes les plus riches de France qui dit « si ça le fait pas, je quitte le pays ».
Bon, c'est Bernard Arnault.
Ouais, ça je trouve que... d'abord, vous m'entendrez jamais dire ça. Moi, je parle à titre personnel, mais je pense que tous les chefs d'entreprise, des Leclerc, des Intermarchés, des Système U, des Intersport, on est des gens de terroir, on sait d'où on vient, on doit à notre pays. Il n'y a aucun d'entre nous qui ferions un chantage comme ça.
Voilà, du chantage, disait ce matin Michel-Édouard Leclerc. Et alors ça n'a pas plu du tout à Bernard Arnault qui lui a répondu il y a 2 heures environ sur X et ses caches aussi, Nathan.
Oui, tout à fait. Un tweet, une réponse de plusieurs paragraphes dont le titre donne la couleur. Déclaration de Bernard Arnault en réaction aux propos de Michel-Édouard Leclerc. Le patron des supermarchés est d'ailleurs directement tagué, épinglé. Si dans un premier temps, Bernard Arnault revient sur ses propos, je n'ai bien entendu jamais dit que nous allions délocaliser le groupe. Cette affirmation est fausse. J'ai tenu à alerter sur des mesures qui me paraissent en tout point contre-productives. Le ton monte dans la deuxième partie. Il l'interpelle. Quant à monsieur Leclerc, puisqu'il semble vouloir défendre les PME françaises, je lui conseille de vendre dans ses supermarchés davantage de produits français et d'arrêter de pressurer les fournisseurs français en cherchant à obtenir d'eux des prix toujours plus bas. La meilleure défense, c'est l'attaque pour le milliardaire qui ne cache pas un certain agacement et conclut, je cite, qu'il montre de cette façon son patriotisme plutôt qu'en critiquant un groupe qui fait rayonner la France dans le monde avec ses artisans et ses fournisseurs en les aidant à se développer dans notre pays. Un ping-pong entre grands patrons français sur la sphère publique. Si on sait que Michel-Édouard Leclerc est habitué des sorties médiatiques, oui. Bernard Arnault qui répond sur X, c'est complètement inhabituel.
C'est rarissime, d'où le fait qu'on en parle évidemment ce soir. Petite guerre à distance dans le verbe en tout cas entre Bernard Arnault et Michel-Édouard Leclerc. Merci beaucoup Nathan Cocampo. Puis alors, puisqu'on est parti, autre coup de colère d'un patron ce matin, puisqu'on y est. Patrick Koller, patron de Forvia, 7e équipementier auto mondial. Vous savez qu'hier, les constructeurs européens ont entamé une discussion avec Bruxelles qui va durer plusieurs mois. Patrick Koller espère notamment qu'à cette occasion, on va reparler de cette fameuse échéance de 2035, date à laquelle on n'est plus censé vendre de véhicules thermiques neufs. Il espère que ça va bouger, cette échéance. Écoutez.
Comment est-ce que l'on va gérer concrètement la date de 2035 ?
La seule chose, pardon, sur laquelle Ursula von der Leyen a été claire, elle ne reviendra pas dessus. C'est tout ce qui est sorti publiquement à peu près hier de la réunion. Hein.
Je ne suis pas sûr de ça.
Ah.
Je ne suis pas sûr de ça. Je pense qu'il faudra à un moment donné être pragmatique. Et surtout, ce qu'il va falloir faire là pendant cette période, c'est de ne pas se passer des compétences thermiques.
Oui.
On est la seule région actuellement, l'Europe, qui ne développe plus de moteurs thermiques.
Voilà le DG de Forvia ce matin sur BFM Business. Tout le monde regarde cette échéance de 2035, Antoine. Hein,
forcément. Bah aussi bien les industriels de l'automobile en dur que les équipementiers, effectivement. Ouais. Mais on le regarde avec d'autant plus d'inquiétude que les groupes automobiles, la transition, ils l'ont faite. Hein, et Carlos Tavares, l'ancien patron de Stellantis sur le départ, l'avait dit. Il y aura des effets de bord. C'est un choix politique, c'est pas un choix technique, le passage à l'électrique. Nous, on a tout fait pour le faire, c'est bon, on a tout le matériel pour le faire, on produit, il n'y a pas de problème. Simplement, le consommateur, il n'en veut pas. Et quand le consommateur n'en veut pas, quand le marché n'en veut pas, quand l'offre et la demande montrent qu'on arrive à un plafonnement en termes de voitures électriques, alors que ça marche mieux du côté des hybrides et que les gens n'ont absolument pas renoncé au thermique pour le moment.
Il y a une clause de revoyure l'an prochain sur cette échéance de 2035.
Le paradigme risque de changer parce qu'encore une fois, pour le moment, sur les voitures neuves mensuellement, il n'y a guère plus de 15% et on n'ira pas au-delà. Donc, il ne faut pas supprimer pour l'instant le thermique.
Soit on repousse l'échéance de 2035, soit on met beaucoup de dérogations à la date de 2035. De toute façon, c'est comme ça, c'est dans un cas ou l'autre que ça se terminera.
Le résultat sera à peu près le même.
Il y a des chances, évidemment. Demain, en attendant, c'est le 1er février. C'est demain que Trump est censé dégainer ses premières hausses de droits de douane. Bonsoir Antoine Nolard, vous êtes à Washington. Ce sont donc le Canada et le Mexique qui vont essuyer les plâtres. 25% a priori pour chacun, Antoine.
Alors Trump l'a confirmé hier, il a bien l'intention d'imposer des taxes douanières de 25% sur les produits mexicains et canadiens, mesure qui prendra effet dès le 1er février. Seul inconnu à ce stade, c'est de savoir si le pétrole brut canadien figurera dans la liste des importations taxées. Trump dit qu'il n'a pas encore décidé. C'est vrai que les Américains importent massivement du brut canadien, ce qui leur permet notamment de maintenir des prix bas à la pompe chez eux. Alors ces dernières semaines, Donald Trump a un peu soufflé le chaud et le froid sur la question des droits de douane. Dans la presse, son entourage évoquait des tarifs sectoriels ou des taux plus ou moins importants selon les pays. Manifestement, c'est la ligne dure qui a fini par l'emporter, avec une stratégie qui consiste à frapper fort d'abord et discuter ensuite. C'est-à-dire que Trump va commencer par imposer des tarifs pour montrer qu'il est sérieux, qu'il ne bluffe pas. Et puis ensuite, on négocie. Et Trump veut renégocier le traité de libre-échange entre les trois pays d'Amérique du Nord, notamment pour faire revenir la production de voitures aux États-Unis. Et puis, il y a la question des frontières. Il demande des mesures fortes à ses voisins pour réduire les flux de migrants clandestins.
Merci beaucoup Antoine. Antoine Hollard, donc à Washington pour BFM Business. Le petit tacle aujourd'hui de la Russie à l'administration américaine, justement. Vous savez que Donald Trump a dit vouloir construire un bouclier antimissile au-dessus des États-Unis, un bouclier comparable au fameux dôme de fer israélien. Ça plaît pas à Moscou, c'est un plan comparable à la guerre des étoiles soutenue il y a 40 ans par Ronald Reagan. Voilà ce qu'a déclaré une porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères aujourd'hui. Des nouvelles de DeepSeek, la fameuse IA chinoise qui nous a beaucoup occupé toute cette semaine. La résistance commence à s'organiser dans la région déjà aujourd'hui. C'est pas une surprise, Taïwan a totalement proscrit l'utilisation de cette IA au sein de son gouvernement et ce, bien sûr, pour des raisons de sécurité nationale. Et puis ça avance du côté de l'EPR de Flamanville. Il a reçu le feu vert des autorités compétentes pour monter à 25% de puissance. Donc pour poursuivre ses essais de démarrage, il est à 25%. Le père de Flamanville, vous savez, qui a été raccordé au réseau le 21 décembre dernier, donc il y a 5 semaines. Puis puisqu'on parle d'électricité, vous savez que c'est demain 1er février que le tarif réglementé d'EDF va baisser de 15%. Ça va faire forcément baisser la facture pour des millions de ménages. Résultat, les concurrents d'EDF multiplient les offres promotionnelles pour éviter le départ de leurs clients. Raphaël Couder nous raconte ça.
Une remise de 10% sur les premiers kilowattheures d'un côté, un prix fixe garanti en dessous du nouveau tarif réglementé de l'autre. Les offres commerciales des concurrents d'EDF foisonnent ces dernières semaines, constate Sylvain Lefaleur, le patron du comparateur Elowatt.
On a effectivement beaucoup de fournisseurs qui se positionnent et ils se positionnent en dessous du tarif réglementé hein, pour que les clients aient des bonnes raisons de les choisir, surtout dans un contexte où même si là ça baisse de 15%, on a un tarif de l'électricité qui a augmenté de beaucoup, hein, de 50% ces dernières années. Donc oui, les différents fournisseurs se positionnent aujourd'hui avec des offres plus compétitives.
D'autres devraient suivre à partir du 1er février. Les fournisseurs alternatifs font en effet leur possible pour rester attractifs et conserver la bonne dynamique de 2024. Grâce à la baisse des prix de marché, leurs offres ont été l'an dernier en moyenne 25 à 30% moins chères que le tarif de référence d'EDF, ce qui leur a permis de retrouver la croissance qu'ils avaient connue avant la crise de l'énergie. Aujourd'hui, plus de 14 millions de foyers résidentiels ont souscrit à une offre de marché, ce qui correspond à environ 40% des ménages.
Raphaël Couder avec nous sur BFM Business, 18h10, on va sur les marchés. Bon, c'est pas brillant, mais on arrache quand même une petite hausse ce soir à la clôture, Antoine, à Paris.
Oui, ça aurait été vraiment dommage de terminer le mois sur une baisse. Ben non, petit coup de rein, là, on le voit sur la courbe en intraday, c'est assez marrant, ça s'est joué sur les dernières minutes de cotation, plus 0,11 pour le CAC 40, on termine à 7950 points. Ça y est, les choses sont quand même bien parties sur ce mois de janvier, très positif pour le CAC 40, on gagne un petit peu plus de 7%. Les volumes d'échanges quotidiennement, on en parle, ils sont actifs, ils sont vigoureux. On est du côté des 3,5 milliards, 4 milliards d'euros, là 4,4 milliards. Pour terminer le mois, on sentait vraiment qu'il y avait du monde sur la place. Plus 0,76% pour l'Euronext Tech Leader, c'est un indice riche en valeurs technologiques. Plus forte hausse du CAC 40, c'est ST Micro qui se rattrape hein, après sa forte baisse d'hier. Le titre est racheté là aujourd'hui, il signe la plus forte hausse du CAC 40 à plus 2,75, 21,83. Schneider Electric aussi, hein, qui a connu pas mal de hauts et de bas avec tous les arbitrages autour de l'IA. Là, le titre reprend 1,8% à 245,35 €. Et puis, dans le bas de tableau, Carrefour moins 1,7%, 13,69 €. LVMH hein, qui a un petit peu de mal à suivre le rythme après l'apparition de ses résultats, moins 1,7%, 703,50 €. À la hausse, à noter un bond assez impressionnant de Verallia en toute fin de séance, plus 11%, 29,80 €, et une très belle performance de Valneva qui a signé un beau contrat pour la fourniture de vaccins à l'armée américaine. Étonnant, hein, l'administration américaine réputée anti-vax, ben non.
Biotech en fait, nantaise, hein, Valneva.
Exactement, et puis il prolonge un contrat existant. Ouais. Puis de toute manière, bon, il faut voir aussi le pragmatisme. Hein. Il n'y a pas de vaccin et que les soldats tombent tous malades. Oui. Donc beau contrat pour Valneva, plus 10,9%, 2,73 €. Le CAC 40 donc, qui termine sur cette hausse de 0,11%, 7950 points. L'euro 1,0419, Guillaume.
On regarde Wall Street, Antoine, mi-séance sur le marché américain, évidemment. Le Dow Jones qui perd 0,04%, on ne bouge pas, 44 861 points. Le Nasdaq de son côté qui grappille 1,2%, 19 919, un mouvement à signaler en particulier.
Oui, les arbitrages autour des trimestriels, ouais, d'entreprise. C'est Apple qui était vraiment sous le feu des projecteurs. Et le titre qui a commencé en forte hausse réduit un petit peu la marche. Là, on est à 0,75%. Un petit coup d'œil du côté d'Intel aussi qui avait publié ses résultats. Intel, celui qui n'a pas pris la vague de l'IA assez vite. Le titre est en hausse de 0,3%. Les résultats étaient quand même bons, publiés hier soir après clôture aussi.
Merci beaucoup Antoine, à lundi avec plaisir, 18h13, nos experts arrivent dans un instant, bien sûr on va parler un petit peu de la France quand même et cet accord entre guillemets sur le budget. On va parler de l'Europe avec la boussole présentée par Ursula von der Leyen, pas mal de choses, un sommet sur la défense lundi et puis Trump qui est censé dégainer demain les droits de douane sur le Canada et sur le Mexique, qui lance des menaces sur les BRICS, qui parle pas de l'Europe pour l'instant, ça c'est surprenant. Tout ça jusqu'à 19h bien sûr, à tout de suite.
BFM Business présente Les Experts sans frontières. Guillaume Paul.
Allez, 18h15, ils sont là jusqu'au 19h, nos experts sans frontières, parce que nous sommes vendredi, évidemment, et parle le vendredi, on parle de la France, de l'Europe, du monde, du regard de nos amis correspondants, chercheurs, spécialistes de relations internationales, ce regard sur la France, sur les affaires du monde, évidemment. On est avec Alberto Toscano ce soir. Bonsoir, Alberto.
Buonasera.
Merci d'être avec nous, essayiste et journaliste italien. Adina Revol qui est avec nous. Bonsoir, Adina.
Bonsoir.
Ancienne porte-parole de la Commission européenne, on rappelle votre bouquin Rompre avec la Russie aux éditions Odile Jacob. Et on essaie de joindre Christina van de Bergen, professeure à l'université de Florence, spécialiste de l'IA, qui devrait être avec nous d'ici quelques minutes. Nous sommes confiants, la nouvelle technologie nous le permettra sans doute. Est-ce qu'on s'autorise à dire un petit mot de la France? Parce que j'imagine que vous suivez un petit peu les vicissitudes, les pérégrinations du budget français. Commission mixte paritaire aujourd'hui. On a trouvé un accord que je vais qualifier d'accord en peau de lapin, parce que dans les 14 parlementaires, vous aviez 8 députés et sénateurs de la majorité, entre guillemets, donc c'est passé, mais ça n'exclut pas la censure. Les socialistes, cela dit, ont le sentiment quand même d'avoir obtenu des avancées. Écoutez le député PS Boris Vallot tout à l'heure.
Nous avons réussi à amoindrir ce que seront ou ce qu'auraient été les souffrances ou les atteintes au pouvoir d'achat des retraités, des patients. Nous sommes préoccupés du budget des collectivités locales qui demeure le premier investisseur public en France. Nous sommes préoccupés des moyens des services publics, de l'école comme de l'hôpital. Nous sommes battus pour que les économies sur un certain nombre de politiques publiques qui sont essentielles ne soient pas ce qu'ils étaient au Sénat. Maintenant, je vous dis aux uns et aux autres, rendez-vous à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Nous allons rendre compte à nos collègues au Sénat, à l'Assemblée nationale et au Parti socialiste de là où nous en sommes.
Voilà. Merci. Rendez-vous lundi donc à l'Assemblée, 49-3. Enfin, on sait déjà comment ça va se passer. Motion de censure qui va être déposée par les Insoumis. Puis on examinera cette motion de censure mercredi. Même en Italie, je dis ça de manière un peu vacharde, Alberto, mais même en Italie, ça passe maintenant. Vous avez une majorité, vous, donc il n'y a pas ce genre de...
Il y a une majorité parlementaire.
Oui, une majorité, oui.
Et s'il n'y a pas de majorité parlementaire, il n'y a pas de gouvernement. et on emploie du temps pour trouver une majorité parlementaire. Mais le problème est que quand on discute pour trouver une majorité parlementaire, les partis savent que s'ils la trouvent, ils ont théoriquement 5 ans, la durée de la législature, pour être ensemble au gouvernement, dont la majorité dure. Le problème structurel, je dirais, entre guillemets structurel, mais les problèmes qui pèsent vraiment sur cette situation française, est que les partis qui sont en train de négocier peuvent être appelés d'ici quelques mois à répondre à leurs propres électeurs des concessions qu'ils font aujourd'hui aux autres partis. Et donc, il n'y a pas l'atmosphère propice pour faire des concessions, pour trouver des compromis. Ouais. Parce que quand on a seulement quelques mois devant soi, on devient plus rigide. Et la France est un pays où l'idéologie domine la politique, encore aujourd'hui.
Oui.
Et malgré tout.
Oui.
Malgré les
besoins. On le voit dans les petits calculs aujourd'hui. Vous avez suivi le coup de gueule des grands patrons là depuis quelques jours.
Et, voilà, et dans ce contexte, il n'y a pas de marge pour faire des concessions, pour faire des compromis.
Adina Revol, comment vous regardez la situation française aujourd'hui?
Écoutez, vous l'avez dit, depuis 6 mois, on essaie de trouver un budget qui est quand même assez boiteux.
Oui.
Et vous l'avez aussi dit, il y a le schisme des grands patrons.
Oui.
Je sais qu'en France, grand patron, c'est limite un grand mot.
Non, mais on les entend beaucoup plus depuis quelques jours. Là, vous voyez, ça monte.
Mais je pense que à raison, parce que regardez ce
qu'il faut que la société civile, à un moment donné, prenne les commandes.
Il faut que les gens prennent conscience que la richesse est faite par les entreprises. Et je le dis d'autant plus fort que, en fait, moi, j'ai vécu dans une économie planifiée. J'ai vécu en Roumanie sous le communisme. Et donc, je sais que ça marche pas. Donc, le seul système que marche, c'est le capitalisme avec des entreprises qui créent de la richesse, qui créent des emplois. Et il faut voir qu'en France, par exemple, on a des impôts de production. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que les entreprises payent pour produire en France.
Avant même le premier euro de chiffre d'affaires.
Hein, exactement. Voilà. Et là, on va augmenter l'impôt sur les sociétés, alors que partout dans le monde, et en Europe d'ailleurs, on le baisse. Et donc, voilà, c'est quand même problématique pour la compétitivité française, parce que c'est pas un mot vague, la compétitivité, c'est des emplois derrière. On parle du pouvoir d'achat. Ben, le pouvoir d'achat, c'est les entreprises qui le créent. Donc, il est important de préserver cette force de l'économie française.
Et là encore, il y a le poids de l'idéologie sur la politique.
Exactement.
Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, vous avez entendu le bras de fer entre Bernard Arnault et Michel-Édouard Leclerc. Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir vu ça, deux grands patrons qui se crêpe le chignon. On voit ça en Italie. On voit des grands patrons prendre la parole comme ça. Est-ce qu'on déteste les grands patrons en Italie? Est-ce qu'on déteste les grands patrons en Italie comme on les déteste en France?
Non, absolument pas. Non, cette attitude anticapitalisme.
Mais t'es à bonne école Berlusconi, quoi. Voilà,
est une attitude française. En France, la politique est imprégnée depuis toujours d'idéologie. Et aujourd'hui, on le voit encore plus que d'autres époques de l'histoire française, je crois. Et en même temps, il y a une économie qui essaie d'avoir ses espaces. De récupérer toutes les conditions pour être compétitive. Et cette économie commence à lever sa voix.
Ouais.
Avec une force qu'on n'avait pas vue en France depuis quelques années. En Italie, il y a Confindustria, le MEDEF italien. Confindustria a beaucoup plus de pouvoir en Italie que le MEDEF en France.
Ouais.
Confindustria parle, c'est une institution qui est capable de se faire écouter, qui possède un grand quotidien économique.
Mais il y a des patrons stars en Italie et des patrons qu'on écoute et dont qu'on apprécie, qui ont une cote de popularité.
Il n'y a pas Bernard Arnault, non.
Non, mais c'est des patrons dont la parole compte, est estimée.
Et là, effectivement, des patrons qui se font écouter, mais je dirais moins qu'en France, de ce point de vue. Le patron italien, le patron italien, évidemment, Berlusconi, c'était une
exception. Oui, mais c'était Berlusconi.
Le patron italien, aujourd'hui, surtout aujourd'hui, essaie de charger Confindustria, l'organisation du patronat, de proposer de faire les propositions des patrons, mais le patron en tant que tel ne veut pas aujourd'hui en Italie devenir une star. Ça a changé par rapport à l'époque Berlusconi.
Et surtout en Italie, il y a beaucoup plus de PME qu'en France. Il y a une vivacité du tissu industriel au tissu local beaucoup plus forte qu'en France. Mais vous parlez du groupe LVMH, mais il y a le groupe LVMH, mais derrière, justement, il y a beaucoup des PME, il y a des petites entreprises.
Mais bien sûr.
C'est une image qu'on utilise pour faire peur, je dirais, le méchant capitaliste.
Ouais.
Mais derrière, encore une fois, ce sont des emplois, c'est notre... vivre ensemble.
Et ces chiffres qu'on répétait hier, l'an dernier, LVMH, 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, mais 9 milliards d'euros d'impôts de payer, quoi. Voyez, donc il y a plus d'impôts de payer que... Voilà, faut l'avoir en tête.
C'est difficile à expliquer.
La France, l'Italie, on passe à l'Europe. Ces chiffres qui sont tombés cette semaine, chiffres de croissance, alors ça fait mal. Zone euro, 0,7% de croissance l'an dernier. États-Unis, 2,8%. Voilà. Tout est dit.
Tout est dit, oui. Effectivement, l'Europe a un problème de compétitivité. L'Europe se trouve aujourd'hui dans une situation spécialement difficile. Et je dirais, même en économie, l'Europe paye le prix aujourd'hui de ses divisions politiques. L'Europe, incapable de s'unir vraiment, paye comme un impôt. Pour cette raison, et cet impôt est le manque de compétitivité.
L'impôt sur la désunion, c'est ça, en quelque sorte.
L'impôt sur la désunion. Et le rapport Draghi a montré à quel point la compétitivité est le point faible pour le chemin de l'Union européenne vers le développement.
Ouais.
Et aujourd'hui, on voit les résultats.
0,7% en zone euro, 2,8% aux États-Unis. Première estimation du département du commerce américain. Hein. Qu'est-ce que ça vous inspire, Adina, ce fossé qui se creuse là?
Oui, bah,
on parlera de 2025 après, mais déjà sur ce chiffre.
On voit bien que l'Europe a un problème de croissance parce qu'on a en fait toujours un problème de coût de l'énergie. Le coût de l'énergie.
Attends, c'est l'Europe qui a un problème de croissance ou c'est l'Amérique qui n'en a pas?
Bah, c'est lié parce que en Europe, on a eu pendant très longtemps notre compétitivité qui a été basée sur un gaz russe pas cher.
Ouais.
Aujourd'hui, on n'a plus ce gaz russe pas cher. Les Américains, ils ont du gaz de schiste. Nous, on importe, y compris du gaz américain, mais du gaz norvégien aussi. Donc, on achète déjà une énergie plus chère. Et en plus, on met en moyenne 30% de taxes, y compris sur l'électricité. En France, c'est même plus. Donc, c'est même aberrant. Donc, la question, c'est voilà, il y a des choses aussi à l'intérieur de chaque État à gérer avant de parler, de charger la barque sur les Américains.
Oui.
Puisqu'on peut baisser le coût de l'énergie, donc le coût final de l'énergie, on peut le baisser très facilement.
Oui.
Il faut juste baisser la taxation. Après, il faut faire des économies par ailleurs.
Vous achetez le terme qu'on a employé là, on a créé un néologisme là ce soir, Alberto. La taxe européenne de la désunion, le coût de la désunion. Vous achetez ça ou pas?
Là, écoutez, on a pris des mesures quand même fortes sur en européen, comme on dit, donc en Union européenne. Ouais. Mais je vous l'avais certainement vu, le Financial Times parle de discussions autour d'un possible retour au gaz russe qui serait mené par l'Allemagne et la Hongrie.
On n'est pas vraiment sorti du gaz russe entre parenthèses.
On a encore 15% du gaz russe.
Oui.
Donc c'est avant on avait 45%. Donc on a quand même une grosse baisse. Aujourd'hui, c'est la Norvège qui est notre premier fournisseur et ensuite les États-Unis. Donc, ça reste. La Russie, c'est le troisième. Donc, c'est devenu beaucoup plus faible. Mais aujourd'hui, donc, l'Allemagne, qui était le premier importateur, donc un tiers des importations, et la Hongrie.
Ils ont bien baissé leur dépendance, hein, quand même.
Donc,
hein.
Selon le Financial Times, on apprend que. Il voudrait ramener Vladimir Poutine à la table de négociation sur l'Ukraine avec un retour au gaz russe. Donc, lier compétitivité et souveraineté à tel point, pour moi, c'est un sort de Munich énergétique.
Alberto
C'est un Munich énergétique, mais quand même, il y a une perspective de la fin de la guerre, je ne dis pas de la paix, parce que la paix, c'est autre chose. Le mot paix évoque le mot justice, mais quand même, fin de la guerre, oui, en Ukraine. Et on ne peut pas continuer éternellement comme ça, les pressions américaines sont évidentes, et même les besoins de l'Union européenne, je crois, de mettre fin à cette situation sont évidentes.
Oui, mais vous croyez qu'on reviendra au gaz russe, que le gaz russe refera ce...
On se pose des problèmes. Une fois que...
Est-ce que c'est pas cousu de fil blanc pour vous? Pardon, mais...
Non, mais j'essaie de me poser des questions. Une fois que la guerre sera finie, la guerre que nous connaissons aujourd'hui sera finie entre Russie et Ukraine, est-ce que l'Europe aura la possibilité, l'intérêt, la volonté, le cynisme peut-être, de reprendre l'importation de gaz russe? J'imagine que s'il y aura un cadre politique pour cette fin des hostilités en Ukraine, ce cadre politique inclura la réduction des sanctions, dont l'hypothèse sera plausible.
On verra l'avenir.
Mais c'est un point d'interrogation.
En fait, je pense que ce qu'il faut faire pour ne tomber... Parce que ce qu'on a vu, c'est que Vladimir Poutine n'a pas respecté ses engagements, en fait. Il a coupé le gaz. Mais en fait, il faut sortir de la dépendance envers les énergies fossiles.
Oui.
Donc, c'est le chemin dont on va parler peut-être par la suite. C'est la boussole stratégique européenne.
La boussole stratégique. Cela dit, si on vient sur le gaz russe, ça ne fera pas plaisir à Donald Trump qui n'attendait que ça, nous vendre plus de GNL, ce qu'il a commencé à faire. Mais oui, on va marquer une pause et oui, on va parler de la boussole de compétitivité qui a détaillé Ursula von der Leyen parce que ça a quand même été un temps fort de cette semaine. On revient dans 1 minute 30, 90 secondes. Vous restez avec nous, bien sûr. À tout de suite.
BFM Business présente Les Experts sans frontières. Guillaume Paul.
Allez, 18h30, c'est reparti pour les Experts sans frontières jusqu'à 19h avec Adina Revol, avec Alberto Toscano qui sont avec nous en plateau. Donc on voulait dire un mot, effectivement, bah oui, ça a été le temps fort de cette semaine, la boussole de compétitivité, le plan d'Ursula von der Leyen pour permettre à l'Europe de retrouver un certain standing en thème de compétitivité sur le plan économique, sur le plan industriel. Adina, donc ancienne porte-parole de la Commission européenne, vous pouvez dire les choses franchement, Adina. Comment est-ce que vous avez trouvé le discours d'Ursula von der Leyen? Alors, on rappelle, il y a des choses. Soutien à l'innovation, simplification des réglementations, baisse du prix de l'énergie, amélioration des infrastructures, investissement dans les technologies de demain et tout ça sans renoncer au pacte vert, s'il vous plaît. Est-ce que c'est ambitieux ou est-ce qu'on est un petit peu dans l'incantatoire et dans le catalogue de bonnes intentions pour vous?
Écoutez, vous allez dire que je suis trop optimiste, mais moi je crois que c'est un pas dans la bonne direction. Donc j'ai retenu la simplification, c'est une demande, et après ce sont des annonces très très claires qu'elle a faites, donc des mesures de simplification de 37 milliards d'euros par an, notamment pour les PME. Donc c'est un pas dans la bonne direction. Elle a annoncé des investissements stratégiques avec une union de marché des capitaux au niveau européen. Donc ça, normalement aussi.
C'est longtemps qu'on en parle, ça, hein, l'union des marchés de capitaux.
C'est très longtemps qu'on en parle, justement, ça fait des années. Et le dossier est bloqué au niveau des États membres. Donc maintenant, il y a à nouveau une nouvelle volonté politique d'y avancer. Et puis, elle a aussi annoncé des mesures pour les prix de l'énergie. Parce que ça, j'en reviens, c'est quelque chose d'essentiel. Parce qu'aucune nation dans l'histoire n'a prospéré sans une énergie abordable et puis sûre. Donc voilà, maintenant...
Oui, mais la baisse des prix de l'énergie, ça ne se proclame pas.
Alors... Justement, il y a des annonces qui vont être faites d'ici un mois, parce que c'est la clé en fait de cette boussole stratégique. Vous avez dit que c'était un catalogue, effectivement, c'est un programme d'action. Et maintenant, il y a derrière des initiatives législatives. Et c'est là que c'est très important. Il faut aller vite. Et j'insiste sur ce point parce qu'aujourd'hui, l'Europe peut aller vite. Elle l'a montré avec le plan de relance. On l'a approuvé en 3 mois. Oui. Donc, on peut y aller très vite, mais il faut vraiment aller vite parce que Donald Trump en même temps, ils signent des décrets d'exécution à la va-vite.
Vous nous dites qu'il y aura des annonces le mois prochain. Est-ce qu'elle n'aurait pas dû attendre un mois et venir avec ces annonces directement?
Peut-être.
Enfin, plutôt que de là nous faire un...
Il y a un besoin de communication, et vous le savez mieux que moi, à quel point la communication domine la politique. Et aujourd'hui, l'Europe a besoin peut-être d'avoir des repères. Alors, certaines annonces anticipées, encore avec un air un peu comme ça, de fumisterie, peuvent être utiles à faire croire aux Européennes que l'Europe avance, que l'Europe existe. Mais là-dedans, il y a des points qui se prêtent à des contradictions ou quand même à des discussions. Par exemple, le Green Deal. Oui. Aujourd'hui, on parle, l'Europe proclame ce drapeau vert, mais qu'est-ce qu'il y a derrière à un moment où les États-Unis disent clairement que l'accent est mis sur la croissance et pas sur le respect de certains engagements, que les engagements peuvent attendre, la croissance non. Cette situation comme quoi des producteurs européens d'automobiles payent des entreprises américaines, si je ne me trompe pas, aussi chinoises, pour acheter des droits.
Des quotas. Tesla notamment, oui.
Mais est-ce qu'on est devenu furieux, sincèrement? Dans l'Europe s'auto-pénalise. Alors, où on croit à une compétition globale, et là, les règles doivent être les mêmes pour tout le monde, et où on pense que la compétition globale est impossible, alors on bâtit un ensemble fermé, et là, il y a nos règles dans notre Europe avec des barrières vis-à-vis du monde. Compte tenu que cette solution... Deuxième solution est impossible. Je crois que...
J'attendais que vous le précisiez. J'attendais que vous nous disiez non, ça c'est pas concevable. Ça,
je crois que la discussion sur l'avenir du Green Deal se pose sérieusement.
Mais je pense qu'on s'autoflagère d'une certaine façon.
Qui parle encore green aujourd'hui? Pardon, vous avez entendu Trump? Vous avez entendu Trump? Est-ce qu'il parle de green?
Alors, le Trump, justement...
Du deal non plus.
Ben non, il ne parle pas green. Les Chinois parlent de moins en moins green.
Alors, les Chinois, ils investissent massivement quand même dans l'électrique, dans le nucléaire aussi, dans les technologies net zéro. Ils sont quand même très en avance, d'ailleurs, sur ce point. Mais... Je sens tomber dans un suroptimisme, mais on a l'Europe a un excédent commercial.
C'est vrai.
Et ça, je pense quand même qu'il faut.
C'est bien ce qui irrite Donald. C'est bien ce qui irrite Trump d'ailleurs.
Trump, il est furieux parce que il n'aime pas cet excédent commercial de l'Union européenne. Donc ça, c'est un point positif. Alors effectivement, vous avez raison pour le pacte vert. Il y a des questions importantes à se poser, notamment sur l'avenir de la filière automobile. Mais là, je reviens à la question du prix de l'énergie parce que vous voyez, il souffre en partie, notamment l'industrie allemande, à cause du prix de l'énergie très élevé. Et je me répète, mais il y a une façon quand même assez rapide de baisser le prix de l'énergie en baissant les taxes sur, qui pèsent sur les entreprises. Donc en moyenne, c'est 30%, y compris sur l'électricité. Mais ça demande derrière un effort budgétaire de la part des États membres.
Et il y a des pays où on n'arrive même pas à faire des budgets.
Exactement.
Pensez à qui en disant ça?
Ou la Suisse.
Ou des pays où on n'a pas de gouvernement.
Non, mais c'est, vous mettez le doigt sur un point sensible, c'est l'argent, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de bonnes intentions. Effectivement, on nous parle d'investissement, on parle de. Mais il faut de l'argent pour tout ça. Et Ursula von der Leyen, qui ne cesse de se référer au rapport Draghi, je vous rappelle ce que disait Draghi, il disait c'est 700 à 800 milliards d'euros d'investissement tous les ans, justement, pour remettre l'Europe à flot, la compétitivité industrielle sur le devant.
Mais
là aussi, elle ne nous a pas parlé d'argent.
Mais si, elle en a parlé, justement. Elle a dit qu'aujourd'hui, en Europe, on a plus d'économies qu'aux États-Unis, en fait. Les Européens économisent plus que les Américains.
Oui,
mais justement, l'épargne européenne va sur la dette américaine, d'où la nécessité d'avoir ce marché des capitaux au niveau de l'Union européenne. Et donc là, il y a un accord politique qui doit être trouvé entre les différents États. Et on dit souvent que l'Europe se construit dans les crises. Bah là, c'est un moment un peu zéro de la construction européenne.
Mais combien de temps vous entendez parler de l'Union des marchés de capitaux, Alberto Toscano?
Je dis pas depuis la menaçance,
mais pas loin, ouais. Non, mais enfin, voilà. Et il y a encore quelques mois, quand on a recommencé à en parler, c'est le maire, Bruno Le Maire, à l'époque, qui avait remis ça sur le tapis.
Ouais.
Les Allemands ont dit oui, mais alors vraiment, vraiment du bout des lèvres. Donc vous sentez que ce sujet n'est pas prêt d'aboutir, non, quoi, véritablement.
Là aussi, on parle de budget, on parle de financement. Mais l'une des plaies est la division des règles fiscales entre pays européens. C'est là aussi que l'impôt que nous payons, l'impôt sur nos divisions, pour revenir
l'impôt de la division tout à l'heure,
est payé sur des sujets très concrets, et l'un desquels est vraiment la fiscalité différente entre pays, qui pénalise les entreprises et qui pénalise aussi les familles.
Bon, donc en résumé, ce discours d'Ursula von der Leyen, vous dites, il y a des avancées, Alina, je vous ai entendu, Alberto, vous dites, le discours de von der Leyen.
Un discours.
Il faut des actes maintenant, justement, donc on attend les actes.
Mais c'est pour ça qu'elle aurait. Bon, elle nous dit qu'il y aura des annonces le mois prochain, rien que ça déjà, ça nous a tous un petit peu refroidis.
Vous savez, si elle avait rien fait, on aurait dit l'Europe n'est pas là. Donc elle a présenté un plan d'action global. Maintenant, on attend les actes qui devront arriver le mois prochain.
Après, ce sont les États qui ont la main, on est d'accord. Il faut une impulsion politique des États derrière. Regardez un petit peu aujourd'hui le rapport de force, les Français un peu aux abonnés absents, les Allemands, j'en parle pas.
Oui,
ce sont les Italiens, qui vont donner l'impulsion. Non, c'est Madame Meloni qui va donner l'impulsion en Europe, non, là, ou pas
Meloni
les Polonais
n'a ni la force, ni les capacités de donner l'impulsion d'être la locomotive de l'Europe. Absolument pas.
D'autant qu'elle fait du business avec Trump et Musk. Hein.
L'Italie a un rôle à jouer, l'Italie de Meloni ou de quelqu'un d'autre. Un rôle à jouer à la condition d'avoir une relation constructive et vraiment collaborative avec la France et l'Allemagne. Or, aujourd'hui, on a une Allemagne en attente d'élections qui seront fondamentales pour son avenir et pour notre avenir. Et la France se cherche en continuation. La France a besoin d'une boussole, mais d'une vraie boussole, pas comme la boussole de von der Leyen. D'une vraie boussole, parce que la France d'aujourd'hui est dans une situation d'impasse politique qui a des répercussions dans la sphère de l'économie qui peuvent devenir beaucoup plus sérieuses qu'aujourd'hui.
Oui, mais est-ce que l'Europe peut avancer sans une France un petit peu en ordre de marche?
Peut-être
une Europe qui va mettre encore quelques mois aller peut-être pour trouver une coalition. Enfin, voyez où on est, quoi, aujourd'hui. Enfin,
France,
quand même pas la meilleure configuration pour accélérer sur des dossiers sensibles comme cela.
Certains disent que l'homme malade pendant les années 2000, c'était l'Allemagne qui était l'homme malade de l'Europe. Ouais. Maintenant, c'est la France. En tout cas, pour l'Allemagne, effectivement, vous avez raison. Ce sont des élections capitales. Mais j'ai aussi entendu Friedrich Merz qui est favori et qui a un discours quand même très fort pour relancer l'Allemagne, pour relancer l'Europe et pour justement garder ce statut de puissance européenne. Parce que je pense que encore une fois, il ne faut pas s'autoflageller. On a des vraies forces. On est le premier marché intégré au monde et ça, c'est notre force.
C'est vrai.
Mais par contre, il y a encore des. Ça peut paraître technique, mais il y a le marché européen qui est notre plus grande force. Il y a des domaines où on n'a pas de marché, donc notamment les techs, par exemple.
Oui.
On n'a pas de marché pour les techs.
Non,
c'est une grosse faiblesse.
Je ne sais pas si elle
c'est
a parlé.
Un grand marché avec des points de faiblesse
et
des verres structurels.
Oui. Structurels,
on
exactement.
L'a vu dans le secteur pharmaceutique, on l'a vu dans d'autres secteurs. Et il y a ce point d'interrogation que vous soulignez justement, qui est de l'énergie. Donc, il y a devant ce point de faiblesse, seulement la cohésion européenne peut fournir des réponses.
Enfin, elle est fondamentale, je suis d'accord.
Il n'y a déjà pas de cohésion entre la France et l'Allemagne sur les questions énergétiques. Donc déjà, rien que là, vous avez déjà un gros handicap. Je ne sais pas si elle a parlé de défense, Ursula von der Leyen, lors de son discours. Toujours est-il que lundi prochain, il y a un sommet, une réunion exceptionnelle entre l'Union européenne, l'OTAN et le Royaume-Uni. Ça va se passer du côté de Bruxelles parce qu'effectivement, l'attitude de la future de l'administration américaine sur le dossier russo-ukrainien inquiète. Je pense que nous partageons la même évaluation des menaces auxquelles l'Europe est confrontée. C'est ce qu'a écrit Antonio Costa, le président du Conseil européen. Comment est-ce qu'on avance là, sur ces questions de défense européenne, si tant est qu'on
On voit bien qu'il faut une industrie de défense au niveau de l'Union européenne. Pendant des longues années, moi je me rappelle, je viens de Roumanie, les usines d'armement qui étaient très présentes pendant la période communiste ont été enfermées pendant après 90, tout ça a fermé. Moi je viens même d'une ville où il y avait une grosse usine en ruine, mais en fait tout ça c'est encore là, donc ça peut être réactivé. On a ça au niveau de l'Union Européenne, on a besoin d'avoir une industrie de défense et on a besoin d'avoir aussi des modèles européens, parce qu'aujourd'hui on a 34 types de chars, il me semble, par
exemple.
Il faut créer des modèles européens et qui puisse aussi être utilisé d'un pays à l'autre. Il faut avoir aussi la même largeur des routes, par exemple, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Donc,
vrai,
il faut créer, encore une fois, un marché européen de la défense. Donc,
c'est
encore
vrai.
Une fois, il y a des trous structurels.
On met les anglais, on met les
bouteilles. Une recherche scientifique et technologique dans le secteur de la défense.
Exactement.
On met les anglais dans la boucle, évidemment, c'est logique, mais... oui, Alberto, oui.
Non, tout se tient. Et là, c'est à nouveau la compétition. Parce que l'investissement technologique, c'est l'un des facteurs fondamentaux de la compétitivité. Donc, et aujourd'hui, l'industrie de la défense sera unie, européenne, s'il y aura une recherche scientifique qui puisse aller dans la direction de l'industrie. L'Europe, c'est construite souvent sur l'économie. L'économie a inspiré la politique. L'économie, les convergences économiques ont produit des convergences politiques, ont eu des réflexes politiques. Cette fois, l'économie...
L'euro qui a été une convergence économique n'a pas vraiment entraîné de bons en avant d'intégration européenne supplémentaire.
On a cru
à l'époque, quand le passage, on a dit l'euro va accélérer l'intégration européenne sur le plan politique. Ça n'a pas été le cas.
L'euro a sauvé peut-être
l'Europe
peut-être, politique.
Peut-être.
Elle a créé une sphère de la zone euro qui est aussi une sphère où, par exemple, je reviens au budget. Nos pays doivent soumettre leur budget à l'Union européenne et les pays de la zone euro sont
prennent des libertés. Ils prennent la liberté avec des critères, vous savez bien.
La liberté avec des critères, mais quand même, je m'interroge sur qu'est-ce que serait l'Europe aujourd'hui s'il n'y avait pas l'euro. Hein? Où on serait dans la convergence économique, politique et des politiques de la défense si on n'en avait pas l'euro? Probablement. Certainement, on n'aurait pas eu le plan contre le Covid, on n'aurait pas eu des interventions communes sur plusieurs dossiers. Je pense qu'aujourd'hui, sans l'euro, on serait tous, y compris l'Allemagne, beaucoup pire qu'aujourd'hui. Et moi, je mets ma main au feu. Mais compte tenu qu'on parle au conditionnel, je peux avoir raison.
Question sans réponse, oui, c'est une question sans réponse, de toute façon.
Déjà, on n'aurait pas pu avoir le plan de relance qui nous a quand même sauvés à une époque difficile. Parce que, rappelez-vous, il y a 4 ans, on était enfermés chez nous, on ne savait pas si on allait vivre le lendemain. Et on a eu un plan, on a eu des vaccins déjà qui ont été achetés avec les euros communs. Et après, on a eu le plan de relance historique. historique qui a permis de maintenir des emplois.
Mais d'un autre côté, on pèse pas forcément plus sur le plan économique, on pèse pas forcément plus en termes de défense, on pèse pas forcément plus sur le champ diplomatique aujourd'hui.
Enfin, on a besoin des politiques.
C'est des questions sans réponse, je suis d'accord avec vous.
Une politique de l'industrie militaire pour avoir une politique étrangère commune. Aujourd'hui, on doit unir la politique de l'industrie de l'armement en Europe.
Puisqu'on parle de défense, je voudrais qu'on dise un mot du Groenland, parce que encore aujourd'hui, le ministre danois des Affaires étrangères qui a répété que le Groenland n'a aucun intérêt, je cite, à passer sous pavillon américain. Et je voulais avoir votre avis sur la façon dont l'Europe gérait ce dossier, parce qu'à part la déclaration de Jean-Noël Barrot qui dit on n'exclut pas l'envoi de troupes européennes au Groenland, et puis je crois qu'il y a quand même aussi le commissaire européen à la défense qui a dit nous sommes prêts à défendre notre État membre, le Danemark. Pardon, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas bousculé au portillon pour prendre la défense du Danemark dans cette histoire.
L'Europe est désorientée par l'arrogance de Trump. L'Europe,
mais enfin, mais c'est pas, est-ce que c'est une raison ?
Elle navigue à vue devant Trump,
mais
elle est désorientée, elle est timide, et on attend de voir. Je pense que cette timidité de la Commission européenne s'explique aussi par cette situation où on comprend pas bien s'il est en train de plaisanter ou s'il parle sérieusement.
Et ça vous étonne pas, cette passivité de la Commission européenne ?
Une fois que j'ai dit que ça m'étonne.
Oui, mais je comprends. Adina, non, enfin, je fais ça.
Oui, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire.
Peut-on rester silencieux à ce point, je veux dire, sur
après,
un
dossier ? Après, c'est aussi, il faut pas oublier, là, on rentre dans une période trouble, en fait, finalement, et où on tâtonne pour savoir ce qui va se passer le lendemain. Et effectivement, il n'y a pas eu de prise de parole forte, ni de la part de la Commission, mais ni de la part des États, ou de la part du Parlement européen.
Non, la France,
donc, la France,
commissaire européen à la défense.
La France a été le seul pays qui a pris la parole de façon forte et déterminée. Mais effectivement, c'est un enjeu finalement. On voit bien à quel point, je reviens à l'énergie, mais en gros, on parle de des métaux rares, en fait.
Oui.
Donc, ce qui intéresse Trump, c'est encore une fois les métaux rares.
Oui.
du Groenland et l'enjeu de l'Arctique. Ce sont des enjeux énergétiques. En fait, finalement, l'énergie, ça gouverne notre avenir tout court.
Oui. Est-ce que vous croyez qu'il a vraiment envie d'annexer ou d'envahir le Groenland, appelez ça comme vous voulez? Alors je crois qu'il y a des élections sur place dans quelques mois au Groenland, justement. La question de l'indépendance divise la population. Est-ce que Trump n'est pas en train de plastronner pour finalement mieux discuter après avec les autorités du Groenland pour établir des partenariats dans le domaine énergétique?
S'il y a une logique
derrière... C'est peut-être plus ça derrière son idée.
S'il y a une logique derrière les boutades de Trump... Et on peut imaginer que le but est justement de nature économique.
Oui.
Et le but est d'exercer une influence de facto sur la non des investissements américains, une présence américaine, et peut-être, pourquoi pas, la naissance d'un parti groenlandais pro-américain.
C'est plus ça, discuter partenariat, grand contrat, effectivement, collaboration économique entre
les États-Unis. En tout cas, quand on voit ça, je me dis.
Il n'y aura pas d'annexion, ils ne vont pas débouler, ils ne vont pas envoyer les GIs sur le sol.
Quand on voit, en fait, la tectonique de plaques qui avance, on se dit que l'Europe a tout avantage, tout intérêt, pardon, à non plus être, parce que là, sur cette affaire, a été un peu spectateur, mais
oui,
à rester acteur. Et on voit bien que Ursula von der Leyen essaie de le faire avec la signature des accords
oui,
politiques sur les commerces. Donc,
oui,
on a eu le Mercosur, il y a eu l'annonce sur le Mexique. Donc, en fait, il y a une géopolitique des accords commerciaux qui se met en place.
On revient dans 30 secondes. Donald Trump, justement, qui est censé dégainer les premiers droits de douane demain, 1er février, contre le Canada et le Mexique. Alors, je parle au conditionnel parce que pour l'instant, on n'a pas la certitude à 100% que ça va se faire. Mais on en parle dans 30 secondes. À tout de suite.
Les experts sans frontières sur BFM Business.
Allez, 18h50, quelques minutes encore avec Adina Revol, Alberto Toscano, les experts sans frontières comme tous les vendredis sur BFM Business. Alors demain, c'est le 1er février et c'est demain théoriquement que Donald Trump est censé dégainer ses premiers hausses de douane de 25% sur le Canada et le Mexique. Alors je dis de vrai parce que on a des déclarations un petit peu contradictoires. Trump, il y a quelques heures, qui dit si, ça va se faire, samedi 1er février. Mercredi, vous aviez Howard Lutnick, qui est le futur secrétaire au commerce, qui disait « Non, non, en fait, c'est juste une menace pour forcer les pays en question à sécuriser leurs frontières avec les États-Unis. Mais pour autant que je sache, disait-il, s'ils agissent rapidement et qu'ils s'exécutent, il n'y aura pas de tarifs. » Donc là, il est grosso modo midi 13h du côté de Washington. On ne sait pas ce qui va se passer à minuit heure locale, grosso modo. C'est ça l'histoire. Enfin, c'est lui surréaliste. Enfin,
c'est surréaliste.
Mesures qui peuvent entraîner le Mexique dans la récession la plus totale, mais on ne sait pas si ça... Enfin, c'est...
Si on nous avait dit, il y a trois mois, deux mois, un mois, que Trump aurait, une fois à la Maison-Blanche, pris toute cette série de décisions dans si peu de jours, il aurait fait ses provocations, la Groenland, on aurait dit, mais non, c'est pas possible. Par contre, il le fait, ou quand même, il dit qu'il veut, il veut le faire. Avec la Colombie, il est allé jusqu'au bout et il a gagné. Donc, après l'histoire colombienne, on va voir qu'est-ce qu'il fera avec le Canada et le Mexique. Certainement, il veut obtenir du Mexique, en particulier, une vigilance.
La frontière.
Une bienveillance, une co-gestion de la question migratoire, qui a pour lui une portée absolument idéologique, hein, plus qu'économique et tout ça. Ensuite, on va voir si ces droits de douane sont un moyen pour avoir autre chose ou si c'est vraiment le but de sa stratégie. Moi, je doute que ce soit vraiment le but et je crois qu'il s'agisse d'un moyen pour avoir autre chose.
Adina.
Oui, je suis d'accord. C'est un moyen pour obtenir ce que vous venez de dire, notamment avec le Mexique.
On ne sait pas ce qui se passe à minuit dans quelques heures, là. Hein. C'est
ouais, ça. Mais, tout à fait. Mais parce que je me dis...
Vous voulez nous garder jusqu'à...
Ouais. Non, on verra ça bientôt. Vous inquiétez pas.
Qui va payer pour ces droits de douane, c'est pas
les
Donald
Américains.
Trump,
non.
C'est le consommateur américain. Et Donald Trump, il a des midterms dans deux ans. Donc,
oui, mais il dit on va forer, drill, 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 donc on va faire baisser les prix de l'énergie, donc ça va permettre de compenser tout ça finalement.
Bah, moi, je note que Joe Biden a perdu à cause de l'inflation.
Oui.
Donc, Donald Trump n'est pas à l'abri de l'inflation, parce que l'économie américaine allait beaucoup mieux sous Joe Biden que l'économie européenne, mais il a quand même perdu. Donc, je retiens aussi de l'histoire les mots de Bill Clinton, « It's economy stupid ». C'est chez les Américains...
Ça n'a pas servi Kamala Harris, vous me direz. Hein. Ça n'a pas servi Kamala Harris.
Justement, parce qu'à cause de l'inflation. Cause de l'inflation.
Absolument.
Donc, il a besoin de ne pas augmenter trop les prix qui sont payés par les consommateurs américains. Donc, effectivement, je pense que c'est un moyen pour mettre la pression, notamment sur le Mexique.
Donc, il peut dégainer ça à minuit, puis ça peut durer, je ne sais pas, une semaine, 15 jours, 3 semaines, le temps d'avoir des engagements de ces pays. Alors, sur l'immigration, sur le passage de drogue aussi, parce qu'il y a, il y a la question
aujourd'hui,
de la drogue.
Faire des prévisions sur les choix de l'administration Trump, vraiment.
On ne va pas se risquer, oui.
Un pari hasardeux. On ne sait pas quoi dire.
Vous avez vu qu'il dit aussi, il reparle des droits de douane de 10% sur les produits chinois. Puis qu'est-ce qu'il a dit il y a quelques heures ? Droits de douane de 100% sur les BRICS, les fameux BRICS, hein, les pays émergents, si ces derniers se passent du dollar dans les échanges internationaux. Ce qui a peu de chance de se passer parce qu'on sait que du côté des BRICS, il y a eu des velléités de créer une monnaie commune pour contrer le dollar, mais que ça n'aboutit pas, quoi, finalement. Voilà. Donc on a l'impression que tout ça, c'est vraiment des menaces en l'air, mais enfin que ça ne sera pas suivi forcément.
Oui, tout ça dans le contexte d'une société américaine qui a perdu certains repères, à mon sens, du débat politique. Et aujourd'hui, on a aux États-Unis une droite nationaliste qui a une vision de l'économie et de la politique tout à fait particulière, mais qui difficilement peut avoir cette vision dans une perspective de long terme. Et une gauche américaine qui s'est perdue dans le...
Oui.
Dans les discussions d'une gauche bizarre où il y a un ensemble d'économie et de conception des droits qui amène à des positions extrémistes difficilement gérables.
C'est
wokisme. Ultranationalisme d'un côté et wokisme de l'autre. C'est une droite américaine et une gauche américaine qui se perdent dans une...
Oui, une société fracturée. Hein.
Dans une société
c'est un
fracturée.
Schisme américain.
Mais il nous reste une minute. Vous dites, il a des élections de mi-terme dans deux ans. Est-ce que vous dites, il doit taper fort, sachant qu'il ne pourra pas appliquer son programme en l'état, donc il montre très vite les muscles.
Bah, c'est ce qu'il explique.
Pour pouvoir ensuite obtenir des résultats sans risquer de faire décoller l'inflation. Donc c'est ça en fait l'idée sous-jacente.
Dans son livre L'art du deal, The Art of the Deal, ce qu'il explique, c'est mettre la pression et négocier toujours en position de force. Donc pour moi, ce qu'il essaie de faire aujourd'hui, c'est de négocier en position de force. Ouais. Ce qu'il a fait un peu sous la Colombie aussi. Il a négocié en position de force. Il a obtenu
gain de cause. Il a marqué des points,
effectivement. Maintenant, voyons voir ce qui va se passer avec le Mexique et le Canada.
Il a utilisé la Colombie pour faire peur au Mexique.
Exactement. Et la Colombie s'est couchée.
Il s'est pris au plus faible.
Absolument. Et la Colombie s'est couchée.
Et il n'est pas le seul à le faire. Il n'est pas le seul. Prendre au plus faible pour faire peur au plus fort.
Il a marqué des points. Ben, c'est terminé pour ce soir. Nous, on verra si le gouvernement Bérou passe la semaine. Déjà, ça nous occupera aussi. On en reparlera évidemment la semaine prochaine. Merci à tous les deux d'être venus. Adina Revol, ancienne porte-parole de la Commission européenne. On rappelle votre bouquin « Rompre avec la Russie », c'est cette édition Odile Jacob. Alberto Toscano, à très vite Alberto. Essayiste et journaliste italien. Merci à tous les deux, à très bientôt. Merci. 18h56, je vous redonne les grands titres dans un instant parce qu'il sera 19h dans 3 minutes sur BFM Business. À tout de suite.
Les experts sans frontières sur BFM Business.